Jacques Delors est un mythe. Cette grande figure de ce qu'on appelle la deuxième gauche, réformiste et résolument pro-européenne, a aujourd'hui 97 ans. France 5 a la bonne idée de proposer à l'occasion de la Fête de l'Europe un documentaire sur sa vie et sa présidence de la Commission européenne pendant 10 ans, intitulé « Jacques Delors, itinéraire d'un Européen ». Ce document d'une cinquantaine de minutes sera diffusé dimanche 8 mai à 22h50. Dans notre émission « Europe, du mur des podcasts », nous avons le plaisir d'accueillir la réalisatrice de ce documentaire, Cécile Amar, qui a pu rencontrer Jacques Delors chez lui, dans son appartement parisien. Cécile Amar, bonjour.
Bonjour.
Pour les plus jeunes de nos auditeurs, il faut rappeler quand même que Jacques Delors a marqué la vie politique française par son retentissant non pour devenir candidat à la présidentielle en 1995. C'était lors de la grande émission politique de l'époque, 7 sur 7. Il était pourtant à ce moment-là le mieux placé à gauche pour affronter Jacques Chirac. Vous commencez, Cécile Amar, votre documentaire par ce refus d'entrer dans la course folle à la présidence de la République. Et j'ai envie de vous demander si vous ne faites pas ce choix parce qu'il définit quelque part la méthode Delors.
Oui, c'est le choix le plus emblématique de Jacques Delors. C'est ce qui lui ressemble le plus, au fond. C'est-à-dire que pour les gens aujourd'hui, mais même à l'époque, ça avait beaucoup surpris, mais pour les gens aujourd'hui, imaginez que quelqu'un qui est favori d'une élection, qui est attendu par son camp, qui peut être président et qui finalement va dire « bah non, parce qu'il n'y a pas les conditions politiques, je pense que je ne pourrais pas gouverner », c'est vraiment Jacques Delors. C'est-à-dire que c'est toujours le paradoxe de sa vie, c'est qu'à la fois c'est un immense politique, ça a été un ministre de François Mitterrand, il a été président de la Commission européenne pendant 10 ans, il a marqué les esprits dans tous les pays européens, et en même temps, c'est quelqu'un qui a un rapport à la politique, un rapport à la vie publique, un rapport au pouvoir très très singulier, et je trouvais que c'était intéressant de commencer par ça. Et puis c'est une émission mythique pour... Il y a 13 millions de gens qui la regardent à l'époque. Anne Sinclair me l'a raconté après en souriant. C'est le même nombre d'auditeurs que la finale de la Coupe du Monde, la victoire de la France de Zidane en 98. Ça donne une échelle de l'attente qu'il y avait et de ce que c'était à l'époque Jacques Delors.
Oui, puis surtout, personne ne s'attendait à ce qu'ils disent non, en fait, d'autant plus, et vous le démontrez bien dans le documentaire, justement, sur toute la première partie, on se dit, bah, donc il y va, etc. Puis finalement, non. Et c'est la première fois qu'entre guillemets, on a une sorte de retournement. C'est un moment de télévision assez incroyable. Il y a des moments comme ça où on se souvient où on était quand ça s'est passé. Cécile Amar, la parole de Jacques Delors est assez rare. Comment est-ce que vous l'avez convaincu de vous recevoir chez lui?
Alors moi, j'ai déjà fait un livre d'entretien avec lui en 2015 et 2016. Donc j'ai cette chance immense de le voir très régulièrement. À l'époque, c'est sa fille qui l'avait convaincu, Martine Aubry. Moi, je suis journaliste politique de formation, donc je suivais le PS et je connaissais bien Martine Aubry. Et elle avait retrouvé toutes les archives de son père, toutes les archives de la commission dans leur maison de famille dans Lyon. Et elle m'avait dit, vous devriez regarder, il y a sûrement un livre à faire. Et donc, j'avais regardé toutes ces archives, puis j'étais allée le voir. Il ne me connaissait pas particulièrement, il avait lu quelques papiers, puis elle lui avait parlé de moi, et on s'est bien entendu parce que, voilà, on a discuté du fond, ça l'intéressait de revenir sur ça, et donc ce lien, on ne l'a jamais perdu. Ça fait 6 ans, et donc l'année dernière, j'avais fait un documentaire sur le 10 mai 81 pour France 2, dans lequel je l'avais fait parler, et puis après, j'étais allée le revoir, et je lui avais dit, mais il faudrait un jour faire votre portrait, et donc accepter d'être filmé, ce qui est toujours plus difficile quand on a 96 ans que quand on est plus jeune, mais à force. Puis il a envie de transmettre. Il avait envie de témoigner, de raconter les choix qu'il a fait.
Voilà. Ça se sent dans le documentaire. Alors, le titre de votre livre, c'était « L'homme qui ne voulait pas être roi, conversation avec Jacques Delors », donc publié chez Grasset en 2016. Il est vraiment dans cette démarche des chrétiens de gauche, c'est-à-dire pas forcément la mise en avant individuelle et l'importance de faire avancer le collectif.
Oui, il a été, historiquement, c'était un militant de la JOC quand il avait 14 ans, dans l'entre-deux-guerres à Paris. Oui, c'est son histoire, mais de toute façon, quand on lui demande, moi je vais poser plein de fois cette question, mais quand on lui demande ce qui est le plus important pour lui, c'est toujours le syndicalisme. Hein. C'est cet engagement-là. C'est, il commence à travailler quand il a 19 ans. En 1944, il rentre à la Banque de France. Le premier jour, il adhère à un syndicat, au syndicat chrétien à l'époque qui est la CFTC. C'est ça, sa vigne. Hein. Et ce qui, quand on lui demande ce qui est le plus important dans les combats qu'il a menés, c'est toujours le social. C'est la formation professionnelle. Enfin voilà, c'est ça. C'est même ça plus que l'Europe, hein, ce qui compte pour lui. Même si en Europe, ce qui est frappant, c'est qu'il a essayé de faire une Europe sociale. Mais c'est ça. C'est l'engagement de la deuxième gauche, c'est l'engagement de la CFDT, c'est l'engagement des chrétiens sociaux. C'est ça, sa vie. Donc forcément, à 97 ans, quand vous vous penchez sur un siècle de votre existence, c'est ça qui reste, c'est ça qu'il a envie qu'on retienne de lui.
En regardant votre documentaire, il y a un moment un peu paradoxal où vous expliquez qu'il n'accède pas à Matignon en France parce que François Mitterrand choisit quelqu'un d'autre. Et un peu en conséquence, il devient président de la Commission européenne. Et en même temps, vous démontrez bien que cette désignation est une évidence du fait de son parcours personnel.
Oui, c'est vrai que dans les carrières françaises ou dans les carrières politiques traditionnelles, le Graal, c'est forcément Matignon ou la présidence de la République. Lui, il n'a en fait voulu ni de l'un ni de l'autre, parce qu'il avait émis une commission, il voulait rester ministre de l'économie, donc forcément pour François Mitterrand, ce n'était pas possible. Et donc, il se trouve que la présence de la commission était vacante, qu'elle devait revenir à un Allemand, mais que Helmut Kohl était d'accord pour que ce soit un Français, si c'était Jacques Delors, parce que justement, cette histoire des chrétiens de gauche. Et oui, c'est à la fois, on pourrait dire, en étant un peu pas très sympa pour l'Europe, dire que c'est un lot de consolation, mais ça sera la chance de sa vie. Et en même temps, il a toutes les qualités au moment où il arrive pour être président de la Commission. Parce que bon, c'est le ministre, ça a été le ministre de l'économie de François Mitterrand qui a fait le tournant de la rigueur. Donc pour tous les pays européens, c'est quelqu'un de sérieux, entre guillemets. C'est pas quelqu'un... Il est à la fois socialiste, mais pas trop. C'est un syndicaliste, donc c'est l'homme du compromis, l'homme de la négociation. Et en fait, pour être président de la Commission, c'est une qualité extrêmement importante. Ah, il aime le dialogue social, il aime la négociation, il aime faire aboutir un accord. Et pour être président de la Commission, c'est exactement ce qu'il fallait, surtout à cette époque.
Oui, alors cette époque-là, c'est quand même l'acte unique en 86, le traité de Maastricht en 92 qui mettait sur les rails l'euro, c'est la chute du communisme, c'est également la préparation de l'élargissement pour l'Union européenne, et puis c'est également faire face à certains dirigeants politiques qui étaient quand même pas faciles à l'époque, comme Margaret Thatcher, la Britannique. Alors il y a plusieurs grands témoins dans votre documentaire, j'en cite quelques-uns, Laurent Fabius, Daniel Cohn-Bendit, des anciens premiers ministres italiens et belges comme Enrico Letta et Elio Di Rupo. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de venir parler de Jacques Delors ?
Non, en fait, vraiment, j'ai pas eu beaucoup de mérite pour les faire venir. Enfin, si je suis allée les chercher, mais Jacques Delors, c'est une icône pour tout le monde. C'est une icône pour tous les dirigeants européens, encore aujourd'hui. Donc, quand vous les appelez et que vous leur dites « Est-ce que vous êtes d'accord pour parler de Jacques Delors ?» Ils sont tous bluffés qu'il accepte de parler, ils sont tous étonnés que je le connaisse, mais ils ont tous envie, en fait, de parler de lui. Non, c'est pas difficile de convaincre des gens de parler de lui, des gens qui l'ont connu, hein, parce qu'il a laissé dans tous les esprits des gens qu'il a rencontrés une trace immense. Et puis, pour tous les responsables européens qui sont arrivés après lui, parce que Enrico Letta et Elio Di Rupo, ils n'étaient pas à la tête de leur pays au moment où Jacques Delors l'était, en fait, ils en ont tous entendu parler. Ses réalisations en Europe, vous les avez citées, je rajouterai Erasmus, il y a quand même des millions d'étudiants qui savent ce que c'est. Enfin voilà, ça reste des marqueurs, c'est une époque... Les années 85-95, c'est encore les années où l'Europe est les années heureuses de la construction européenne. Donc non, convaincre, ça n'a vraiment pas été difficile de convaincre les gens de parler.
Alors c'est la fin de notre émission Europe pour le mur des podcasts. J'invite vraiment tous nos auditeurs à se mettre devant votre écran dimanche 8 mai à 22h50. Et si jamais vous ratez, il y aura sûrement le replay sur France 5, sur le site de France 5. C'est intéressant autant pour les gens qui... comme vous et moi, Madame Amar, on connaît bien l'Europe. Donc, il y a des choses qu'on apprend quand on redécouvre en tous les cas. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Delors, vraiment, regardez, vous allez voir que c'est un parcours assez atypique et assez incroyable. Voilà, donc n'hésitez pas à être devant France 5 dimanche soir, dimanche 8 mai. Merci, chers auditeurs, de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous incite à continuer à faire de plus en plus d'émissions. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.